Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une formidable histoire du tout début du XXe siècle, 1902. L'histoire d'une empoisonneuse en terre gasconne dans le Gers. Cette histoire, je la tire d'un livre de Jean-Claude Hulion, paru récemment aux éditions Orphil Volis, Rachel, la grande empoisonneuse. Il sera avec nous tout à l'heure pour le débrief. Thomas Audouard m'a aidé à l'écrire. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nous voilà en novembre 1902. Soyez les bienvenus à Saint-Clar, petit village du Gers. Et laissez-moi vous présenter Gaston Galtier, le juge de paix du village. C'est lui qui tranche les petits litiges et les histoires de voisinage. D'habitude, Gaston Galtier est ce qu'on appelle un bon vivant. D'habitude, il a un appétit d'ogre. Mais là, en ce moment, c'est pas la grande forme. Et par dit que ça va pas bien. Il peut plus manger que du liquide. Il y avait ça, un mal de ventre. Pauvre garçon. Je sais pas ce qu'il a. Le 7 novembre 1902, le voilà alité à se tordre de douleur. Il vomit toute la nuit, au point que sa femme Rachel fait appeler le docteur Labatte. Oh! Adieu, madame Galtier! Qui me va? Oh, pas trop bien, docteur. Mon Gaston a rendu toute la nuit. Je sais pas ce qu'il a. Le docteur Labatte examine Gaston. Il n'a pas l'air trop inquiet. C'est pas grand chose, madame Galtier. Une indigestion, une fatigue à l'estomac. Vous n'avez qu'à lui donner de l'eau gazeuse et de la glace bien froide. Et je vais vous prescrire un purgatif que vous irez chercher à la pharmacie. Pour le reste, il faut qu'il se repose. Et vous ne lui faites rien manger. Mettez-le à la diète. Mais 3 jours plus tard, le pauvre Gaston est toujours au lit et toujours aussi mal en point. Aurélie! Aurélie! Faites-lui donc un bouillon. Ça lui fera du bien. Aurélie, c'est la bonne. Quand elle apporte le bouillon à Gaston... Mais c'est quoi que vous me faites manger, là? Il y a trop de sel et trop de poivre. Mais non, Gaston, c'est toi qui as mauvaise bouche. C'est pas trop salé. À peine redescendu au rez-de-chaussée, Rachel et la bonne entendent un bruit sourd à l'étage. Alors elles remontent toutes les deux en courant. Mille adieux, Gaston! Qu'est-ce qui t'arrive? Gaston est tombé du lit. Le docteur Labatte n'est pas disponible. Rachel en fait venir un autre. Et en l'attendant, elle reste à veiller son mari. Rachel. Rachel, approche-toi. Rachel, je crois que pour moi, cette fois, c'est fini. Alors écoute-moi. Écoute-moi bien. Ta fortune ne va pas te permettre de rester ici avec notre fils, Pierre. Écoute-moi. Va à Casseneuil et débrouille-toi pour faire prendre une assurance vie à ta grand-mère. Elle ne va pas tarder à mourir. Comme ça, tu auras de quoi vivre. Quelques secondes plus tard, Gaston Galtier est mort. Quand le docteur arrive, c'est trop tard. Il trouve Rachel sur une chaise, à pleurer. Les proches et la famille sont déjà là, à veiller le mort. La suite est très étrange. Rachel envoie un télégramme à 2 docteurs du village où elle est née, Casseneuil. Elle ne leur parle pas du tout de la mort de son mari la veille. Au contraire, elle leur écrit simplement « Gaston, très malade, venez immédiatement ». Du coup, quand ils arrivent, ils sont un peu surpris.
« Eh bien, Rachel, il est mort, votre mari. Et pardi que je sais qu'il est mort. » Mais de quoi qu'il est mort, je sais pas. Et moi non plus, je sais pas. Je vois des traces noires ici, au niveau du thorax. Mais d'où ça vient? Ça, je ne sais rien.
J'ai envie de dire, il n'en sait rien, c'est l'essentiel. Vous verrez.
En attendant, il faut bien l'enterrer, ce pauvre Gaston Galtier. Et passer les funérailles, assumer le deuil. Dans ces années-là, dans le Gers, on ne discute pas avec le deuil. On se met en noir, et puis c'est tout. Et on porte sa peine publiquement. Et Rachel, elle a de la peine. Ça, on ne pourra pas dire l'inverse. D'autant qu'avec Gaston, juge de paix, elle avait une petite vie mondaine à Saint-Clair. C'était pas à Saint-Germain-des-Prés, hein, mais quand même. C'était mieux que rien. Et là, depuis qu'il est mort, ben, c'est rien. Et donc elle décide d'aller s'installer quelque temps chez ses parents à Casseneuil. Et à Casseneuil, sur les bons conseils de son Gaston avant de défaillir, elle va se renseigner pour faire prendre une assurance vie à sa grand-mère. Une assurance vie ? Une femme si âgée et dans son état ? Mais en fait, madame, c'est impossible. Bah oui. Il a vu la Vierge, Gaston. Quelqu'un qui est mourant, on ne peut pas lui prendre une assurance sur la vie, ce serait trop simple. Et de fait, la grand-mère ne va pas bien. Rachel en profite pour s'occuper d'elle. Je vais te faire des petits plats, mamie. Tu verras, ça ira mieux. Mais les petits plats ne peuvent rien contre l'âge. Et en janvier 1903, 2 mois jour pour jour après Gaston, la grand-mère passe de vie à trépas. Quand la grand-mère meurt, Rachel n'hérite de rien. Son père, Monsieur Dupont, est toujours vivant. C'est lui qui hérite. Mais c'est un brave homme, et comme beaucoup de parents, il en fait un peu profiter sa fille. T'es, Rachel, voilà 1000 francs que je tiens de ta grand-mère. Ça pourra t'aider. Et puis je te donne aussi une maison que j'ai ici. Bon, c'est pas Versailles, mais ça vaut quand même dans les 3500 francs. Du coup, si tu veux rester ici, à Casseneuil, maintenant que tu es veuve, ça sera facile. Rachel reste effectivement à Casseneuil tout le mois de février, mais dès le mois de mars, elle fait le choix de regagner Saint-Clair. De retour à Saint-Clair, en mars 1903, Rachel Galtier a épongé ses larmes. Et elle renoue avec quelques-unes de ses amies, notamment Madame Ducassé, l'institutrice. Elle lui emprunte régulièrement des livres. Elles s'entendent bien, tous les deux. En revanche, avec sa bonne Aurélie, c'est en train de tourner vinaigre. Aurélie s'est mise à recevoir des lettres anonymes disant que son mari Jules la faisait cocu. Et Jules, furieux de ce mensonge, a découvert que c'est Rachel qui a écrit ces lettres. Pourquoi est-ce que Rachel a fait ça? Personne n'en sait rien. En attendant, Aurélie a démissionné. Mais qu'importe, hein, Rachel lui a déjà trouvé une remplaçante, Maria. Maria Escriba. À part ça, Rachel a toujours un gros souci. Mettre son fiston Pierre à l'abri du besoin. Le coup de l'assurance vie au nom de sa grand-mère n'a pas marché, il lui faut trouver autre chose. Alors elle demande à son frère, qui, pour compliquer un peu cette histoire, s'appelle aussi Gaston. Gaston Dupont. Et Gaston, l'avantage, c'est qu'il n'est pas encore marié. Il fréquente, hein, mais il n'a pas encore convolé. Et il n'a pas d'enfant. Gaston, mon frère, est-ce que tu serais d'accord pour prendre une assurance vie au bénéfice de mon petit Pierre, s'il t'arrive quelque chose? Une assurance vie? Mais ça coûte de l'argent, ça, tous les mois. Ça coûte de l'argent, 300 francs par mois. Mais t'inquiète pas, hein, je m'en occupe. T'auras rien à payer. Ah, si j'ai rien à payer, alors d'accord. Il est gentil, le frère. S'il venait à disparaître, 50 000 francs reviendront au petit Pierre. Même si la probabilité qu'il meure avant Rachel est assez faible, il est plus jeune qu'elle. Là-dessus, le Franchin doit aller faire son régiment à Toulouse. Rachel lui écrit « Ne viendrais-tu pas me rendre visite à Saint-Clair avant de partir faire ton service ?» Pourquoi pas ? Il l'aime bien, sa sœur Rachel, et il la voit peu.
Alors le 4 août 1903, le voilà sur son Picloo en route pour Saint-Clar. Il y arrive sur les coups de 5h de l'après-midi. Oh mon Gaston, comme tu me fais plaisir de venir me voir. Tu vas rester un peu? Eh non, ma pauvre Rachel. Je dois partir demain à 3h. Je dois être à la caserne à Toulouse demain soir. C'est un peu court, mais qu'importe. Rachel se connaît ses fourneaux et ils dînent tous les deux. Un peu plus de soupe, mon Gaston? Je te remercie, mais non. J'ai un de ces mal au ventre. Bouge pas, je m'en vais dans le cabinet. Le pauvre Gaston vomit tripes ses boyaux. Le lendemain matin, il va un peu mieux. Et en début d'après-midi...
Eh bien, merci. Ça m'a fait plaisir de te voir, ma grande sœur. Il faut que je me mette en route au matin au régiment à Toulouse.
Le trajet du pauvre Gaston vers Toulouse est un chemin de croix. Et à peine arrivé, le voilà à l'infirmerie de son régiment.
J'ai un de ces mal au ventre, docteur. Je ne sais pas ce que j'ai.
Sans doute un érythème ionique, jeune homme. Et une légère irritation digestive.
Ce n'est rien. Vous allez vous remettre très vite.
Et de fait, il se remet. Gaston Dupont effectue son service militaire à Toulouse et avant de rentrer chez lui, il va voir son ami Jules à Pau.
Oh Gaston, que je suis content de te voir. Et moi donc, Jules. Et alors, où en es-tu? Tu es marié?
Et pas encore, mais bientôt. J'ai une bonne amie à Libourne, près de Bordeaux. Geneviève, elle s'appelle.
Et je compte bien épouser. Eh bien... voilà une bonne nouvelle.
Quand il prend la route du retour, Gaston décide, comme à l'aller, de s'arrêter à Saint-Clar voir sa sœur Rachel.
Oh, boutu, quand tu me fais plaisir, Gaston. Je t'ai mitonné un bon petit dîner. On va se régaler.
Le lendemain matin... Gaston ne va pas bien du tout.
J'ai un de ces mal au ventre, Rachel. Oh, il des putes, ça doit être les écrevisses que tu m'as fait à dîner hier. Ça m'a mis un pet au ventre. Oh.
Et le surlendemain, il ne va pas mieux. Alors Rachel appelle le docteur Labatte.
Oh, bon, je pense que c'est rien, hein, jeune homme. Vous allez prendre un laxatif et puis du sinapisme qu'on fait, hein? Ça vous fera du bien.
Du sinapisme confrère, autrement dit de la farine de moutarde. Ne riez pas, hein. Ça se vend encore aujourd'hui. Le pauvre Gaston écrit à sa fiancée Geneviève.
Ma chérie, je suis souffrant et je reste chez ma sœur quelque temps.
Mais les jours passent et il ne va pas mieux. C'est même de pire en pire. Maintenant, il transpire et il manque de s'étouffer. Rachel fait prévenir ses parents que son petit frère ne va pas bien. Et ils arrivent à Saint-Clar. Et ça empire encore. Alors Rachel fait revenir le docteur Labatte.
J'avoue que je ne comprends rien. Je ne comprends pas du tout ce qu'il a. J'avoue que je me sens bien impuissant.
Si le docteur est impuissant... Voyons ce qu'en pense le pharmacien Rouet. Un voisin va lui poser la question.
Des vomissements, vous dites? Et des douleurs à l'estomac? Oh! Le mari de Madame Galtier souffrait déjà des mêmes symptômes, hein? C'est étonnant quand même, hein?
C'est étonnant, en effet. Et le pauvre Gaston Dupont meurt au cours de la nuit suivante à 3h du matin. Décidément, sale temps pour les Gastons. Si on se résume, dans cette histoire, en quelques mois, on a 3 morts. Gaston, le mari de Rachel. Gaston, le frère de Rachel. Et la grand-mère, même si elle était vieille. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez qu'elle les a tués tous les 3, qu'elle les a empoisonnés.
Vous n'êtes pas seul à le penser, je vous rassure. À Saint-Clar, ça commence à cancaner. D'autant que Rachel a déjà remballé ses habits de deuil.
Oh, ben je l'ai vu l'autre jour. Elle avait un corsage. Et bien ouvert. Elle a rigolé. Ça se fait pas quand même quand on vient de perdre coup sur coup son mari et son frère. Ah, ça non, Miladiou. Ça se fait pas, hein.
Et voilà que des affiches apparaissent sur les murs de Saint-Clar.
Des affiches dans un village d'à peine 1500 habitants. On ne peut pas les louper, hein.
Il y en a même une sur la maison de Rachel rue des Nobles. Avec écrit en gros,
Madame Galtier a empoisonné son mari et son frère.
Sympa l'ambiance à Saint-Clar.
Le nouveau juge de paix, la gendarmerie et le procureur reçoivent aussi des lettres du même tonneau.
Anonyme, bien sûr.
Attention, hein. Tous les habitants de Saint-Clar n'accusent pas Rachel. Ses amis ne croient pas un mot de ces rumeurs.
Cela dit,
moi je crois, hein, que pour laver son honneur, eh bien, on devrait faire des autopsies sur les trois cadavres. Et comme ça, ben, et on saura.
Même ses amis ne croient qu'à moitié à son innocence.
Et donc, une enquête commence. C'est d'abord le juge de Pémérol, le remplaçant de Gaston Galtier, qui s'y colle. Et très vite, lui-même n'a plus beaucoup de doutes. Il prévient donc le procureur de Lectour. Très bien, Mérol, très bien. Très bon travail. Écoutez, je vais délivrer tout de suite un mandat de comparution, hein, à cette femme Galtier.
Quelques jours plus tard, un dimanche, le procureur de la République, le juge d'instruction et le commissaire greffier se présentent au domicile de Rachel rue des Nobles. Ils font fouiller la maison et saisir deux ou trois choses. Et le jour même, ils entendent des témoins. Et quand le soir arrive...
Bien. Eh bien, je crois que nous n'avons plus beaucoup de doutes. Hein? Cette femme est une empoisonneuse. Et donc, eh bien... Je m'en vais prendre un mandat d'arrêt.
Le soir même, Rachel Galtier dort à la prison de Lectour. Ce qui, au début, n'a pas l'air du tout de l'effrayer.
Gardien, je voudrais un chocolat chaud pour mon petit déjeuner. Ah, mais Madame Galtier, c'est que ça coûte de l'argent. Peu importe, gardien, je payerai.
C'est qu'elle a des sous, la diablesse. Ça lui a rapporté. Ça.
C'est le juge d'instruction d'Ansos qui est chargé de l'enquête. Il commence par aller perquisitionner la maison des parents de Rachel, à Casse-Neuil. Et plus précisément, la chambre qu'occupe Rachel quand elle y va.
Bon, voilà ce que j'ai trouvé. Des bijoux, et pas que, hein. Toute une quantité de bijoux. Elle les avait mis au fond d'un tiroir de sa commode. Donc là, ben, on a des broches, ici des bagues, ici des bracelets, une chaîne, et puis là, une montre en argent. Voilà ce que j'ai trouvé, monsieur le juge, chez ses parents.
Mais d'où sortait tout ça?
Le juge lui pose la question lorsqu'il l'interroge. Il a posé les bijoux sur la table.
Dites-moi, madame Galtier, d'où est-ce que vous tenez tout ça?
Oh, tous ces bijoux sont des cadeaux de feu mon époux, monsieur le juge.
Ça, madame Galtier, c'est ce que vous voulez me faire croire, hein? Mais vous n'y arriverez pas très longtemps. La provenance de ces bijoux que vous détenez est bien plus obscure que ce que vous prétendez.
Mais pas du tout, monsieur le juge, il n'y a rien d'obscur.
Vous savez ce que je pense, madame Galtier? Je pense que vous avez empoisonné votre mari, puis votre frère, et ainsi que votre grand-mère. Et le seul moyen d'en être sûr, c'est de pratiquer des autopsies sur les trois cadavres. Qu'en dites-vous?
Et je n'en dis rien, monsieur le juge.
Faites donc comme vous voulez. D'une certaine manière, ça me rend un service. Vous verrez que je n'ai rien fait de mal.
Et donc, on déterre les trois cercueils au cimetière de Casse-l'œil. Le juge d'instruction est là, le procureur de la République et trois médecins légistes, dont le docteur Lande, qui est maire de Bordeaux. Et puis évidemment les gens du coin. Ils sont au moins 200 venus voir et dire ce qu'ils pensent de Rachel.
Bon, évacuez-moi tous ces gens, hein. Nous ne procéderons à l'exhumation que quand ils seront partis.
Et donc, on sort les trois cercueils, on les met sur une charrette et on les emmène dans une grange à l'abri du regard. On ouvre, on sort les cadavres et on les pose tous les trois sur une table. Ils sont trois médecins légistes, un par cadavre. Ils se mettent à découper et ils remplissent des bocaux avec les tripes et les boyaux de chacun des morts.
Bien, nous en avons terminé, monsieur le juge. Hein? Nous allons amener tout ça à Bordeaux et puis nous vous rendrons nos conclusions sous peu.
Ce qui est étonnant, c'est qu'au même moment, au fond de sa cellule, Rachel Galtier n'a pas l'air du tout inquiète. Comme si elle était sûre qu'ils ne trouveront rien. En attendant, elle vient de demander qu'on fasse venir un coiffeur. Elle a de l'argent. Elle en profite. Cela dit, prudente, elle embauche aussi un avocat. Maître Nux, du barreau de Lectoure. Il paraît que c'est le meilleur. Elle a bien raison de prendre un bon avocat. Le juge fait régulièrement venir Rachel dans son bureau.
« Chère Madame Galtier, je m'intéresse à ces bijoux qu'on a retrouvés dans votre chambre chez vos parents. On me dit que vous êtes amie avec Madame Larieux. Larieux, c'est ça? Alors j'ai décidé de la confronter à vous en posant les bijoux sur la table devant elle. Qu'en pensez-vous, Madame Galtier ? »
Et là, Rachel courbe l'échine. Cette confrontation avec son ami Larieux, elle n'en a pas envie. Ça se voit.
Pour la chaîne en or, je veux bien reconnaître que j'ai profité d'être invité chez Madame Larieux pour la voler au cou de son fils.
À côté de ce qui lui est reproché, c'est-à-dire trois empoisonnements, ça ne pèse pas lourd. Mais ça donne une idée du personnage. Et pour la suite, eh ben on attend toujours les résultats des analyses. Et elle, pendant ce temps-là, eh bien ça a l'air d'aller. Elle n'a pas l'air inquiète du tout. Elle boit son chocolat au lait tous les matins. Elle se fait servir un succulent repas de midi. Une collation à 4 heures et un dîner à 19 heures. Le juge a décidé de ne plus l'interroger tant qu'il n'aura pas les résultats. Mais il y en a un qui, à ce stade, sait déjà ce qui s'est passé, ou à peu près. C'est le pharmacien de Saint-Clair, le docteur Rouen. Quand on est venu lui annoncer la mort de Gaston, le frère, après celle de Gaston, le mari, dans les mêmes conditions, après les mêmes vomissements et dans la même maison, il a tout compris.
C'est-à-dire que je me suis souvenu que dans les semaines qui ont précédé, Madame Galtier m'a plusieurs fois envoyé ses bonnes pour acheter de l'arsenic. Elle disait que des rats s'attaquaient à son linge. Alors, je lui en ai donné plusieurs fois. Et la bonne revenait toujours, et elle en voulait de plus en plus souvent. À un moment, j'ai dit non, je ne peux plus vous en donner. Alors, ils n'ont pas encore reçu les résultats des analyses, mais moi je sais ce qu'ils vont trouver. De l'arsenic, mon arsenic. Oh, qu'est-ce que je m'en veux.
Il a raison, les analyses viennent d'arriver de Bordeaux. Le frère, Gaston Dupont, on a trouvé dans ses tripes 8 à 10 fois la dose mortelle d'arsenic. Et elle n'y est pas allée mollo, la Rachel. Et son mari, idem. Et la grand-mère, aussi. Elle les a empoisonnés tous les trois. Pourquoi?
Vous connaissez ma théorie. Il n'y a pas de sexe dans cette histoire. Et quand c'est pas le cul, eh ben c'est l'argent. Basique, net. L'héritage du mari, celui de la grand-mère, et l'assurance-vie du petit frère. Voilà. Elle a fait tout ça pour ça. Et c'est avec cet argent qu'elle se paye tous les matins son chocolat au lait. Rachel déménage à la prison de Hoche, car c'est là qu'elle va comparaître devant la cour d'assises. Et là, on en apprend une bien bonne, grâce à la presse locale, figurez-vous. À la prison de Hoche, Rachel s'était prise d'amour pour un co-détenu, Albert. Véridique, hein ? Les hommes et les femmes, bien sûr, ne sont pas détenus ensemble, mais Albert est cuisinier et il distribue les repas dans le quartier des femmes. Voilà comment cette histoire d'amour a débuté. Alors on me dit qu'ils n'ont pas fait zizi-pampan. Admettons. Quoi qu'il en soit, la prison a mis un terme à tout ça. Mais il continue de s'écrire. Et le journal a mis la main sur quelques-unes de ses lettres. Ils auraient voulu les publier. Mais non, trop licencieux, comme on dit à l'époque. Trop cru, trop cochon, quoi. Tout ça pour dire que cette histoire passionne dans le coin. Il va y avoir beaucoup de monde à ton procès, Rachel. Beaucoup de monde. Le procès de Rachel Galtier s'ouvre à Hoche le 26 octobre 1904. Il doit durer 4 jours. La salle est comble. Et Rachel est en deuil, de la tête aux pieds. Elle, qui était passée si vite au corsage, a fait marche arrière. Toute de noir vêtue, avec un long voile noir sur le visage. Une veuve au port des larmes. Très réussie. Et ça colle parfaitement avec ce qu'elle a à dire sur cette affaire. « Je suis absolument innocente. Je n'ai empoisonné personne. Et en vérité, je suis une victime qui a perdu son mari, son frère et sa grand-mère. » On ne lui fera jamais dire l'inverse. Mais quand les légistes viennent à la barre, plus personne ne la croit. « Rendez-vous compte que dans le corps de Gaston Dupont, il y avait entre 8 et 10 fois de quoi tuer quelqu'un. » Et c'est conforté par le témoignage du pharmacien du village qui a vendu l'arsenic. « Moi, j'ai cessé de l'en vendre quand j'ai réalisé qu'elle avait chez elle suffisamment d'arsenic pour empoisonner tout son quartier. Elle m'a bien eu, la diablesse. » Et les bonnes viennent enfoncer le clou. « Bon, elle me renvoyait sans cesse en chercher. Mais comme c'est moi qui faisais le linge, je voyais bien que cette histoire de rat, ça n'allait pas. » A priori, l'affaire est dans le sac. Ce qui est intéressant dans ce procès, c'est qu'à un moment, on s'intéresse à l'état psychique de Rachel Galtier. Son avocat, Maître Nux, a fait venir 2 experts, médecins. « Que pouvez-vous nous dire, docteur, sur le psychisme de l'accusé ?»« C'est incontestablement une femme qui est atteinte d'hystérie. À tel point d'ailleurs qu'il lui faudrait des soins. D'accord ? Et vous, docteur, qu'en diriez-vous ? Je suis d'accord avec le diagnostic de mon confrère. Cette femme est hystérique. Hystérique, docteur, au point qu'il faudrait l'interner dans un asile d'aliénés ? Non, non, nous n'en sommes pas là. On pourrait croire que cette histoire d'hystérie est une stratégie de la défense, mais manifestement, l'avocat général lui-même, au moment de son réquisitoire, admet que peut-être il y a un problème de ce côté-là. « Nous avons assisté hier à une belle et savante joute entre professeurs de nos facultés, et nous avons admiré leur éloquence. Mais ils nous ont laissé l'impression que leur science est très vague. La société a confiance en vous, messieurs les jurés. Vous refuserez la
pitié à cette femme qui sème sa route de cadavres. Et vous verrez dans quelle mesure vous pourrez lui accorder des circonstances atténuantes.
Et voilà Maître Nux qui se lève pour plaider.
L'accusé, messieurs les jugés, est atteinte d'hystérie. L'hystérie est une maladie mentale. Rachel Galtier est malade. Vous devez le dire et émettre dans votre jugement le vœu qu'on la fasse interner dans une maison d'aliénés.
Les jurés délibèrent, et pendant ce temps, par précaution, on met Rachel à l'abri du regard du public, dans une petite pièce à côté. Et le président annonce le verdict.
Madame Galtier-Rachel, les jurés vous déclarent coupable des vols et des assassinats par empoisonnement. Néanmoins, il est retenu les circonstances atténuantes. Et les jurés vous condamnent à la peine de 20 années de travaux forcés.
À l'annonce du verdict, Rachel Galtier ne bronche pas. Elle demande juste une cigarette à un gendarme et la fume le plus paisiblement du monde. Et toujours drapée dans son voile noir, elle quitte le tribunal pour la prison, protégée par une haie de militaires. Et comme ça se fait en général à l'époque, dans la foulée du procès, un chansonnier écrit une complainte qui sera chantée dans tout le pays. Ciel, quel est donc ce monstre infâme dont le poison sème la mort? A frémisser, c'est une femme belle pourtant et jeune encore. Rachel Galtier est emprisonnée à Montpellier. Elle sera finalement libérée après 18 années de prison. Formidable histoire que nous allons débriefer dans un instant avec celui qui a écrit le livre qui m'a permis de vous la raconter, Jean-Claude Hullion. Le bouquin s'appelle « Rachel, la grande empoisonneuse » aux éditions Arfil. Voilis. Alors Jean-Claude Hullion, racontez-nous d'abord comment vous êtes tombé sur cette histoire, vous.
Bien, moi, c'est très facile de tomber des histoires comme ça. Il se trouve que j'ai beaucoup d'amis et j'ai des amis qui osent continuer à garder des vieux dossiers. Celui de Rachel était resté dans un dossier qu'avait un huissier de Saint-Clar, justement, dont le fils était un meilleur ami. Et un jour, il m'a dit « on pourrait en faire quelque chose ». J'ai dit, écoute, on va voir. Le temps a traîné. Au bout de 10 ans, j'ai dit, écoute, Jean-Claude, nous avons fait depuis d'autres choses, notamment on a travaillé sur le comte Gascon. J'ai dit, je vais me remettre donc à l'affaire Galtier. Je suis allé rechercher des éléments qui venaient tous des journaux parus, notamment en Gascogne, mais aussi à l'échelon national. Et c'est un travail de minutieux qui nous a permis de reconstituer le parcours de Rachel dans les deux départements cités, c'est-à-dire le département d'origine, c'est Lot-et-Garonne, et le Gers, où je suis, c'est le département voisin. Voilà comment s'est montée l'opération Galtier, sachant qu'en prime, j'ai été dans des associations, notamment en Lot-et-Garonne, avec une amie qui était présidente de Deux Livres en Livre, toujours le livre, et cette présidente, elle est originaire de Casseneuil, et c'est elle qui m'a fourni toute l'iconographie du livre. Voilà un petit peu comment on fait ça.
D'accord, alors, est-ce qu'il y a une mémoire à Saint-Clar de cette histoire? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient entendu parler de Rachel ou pas?
Oui. Mais de moins en moins, parce que ça s'estompe, et il y a encore des vieilles familles qui ont gardé la fameuse chanson qui est à la fin donc de votre émission, Rachel la grande empoisonneuse, qui se chantait dans les rues avec des imageries pénales où on racontait toute l'histoire de Rachel Galtier. Et en fait, c'était les chanteurs de rue, et ils vendaient, et nous avons retrouvé à Saint-Clar plusieurs personnes qui avaient gardé dans la famille ces chansons qui étaient vendues dans les marché.
Le texte de la complainte, quoi. Il l'avait gardé. Je précise que à l'époque, ça se chantait, ce qui n'avait aucun rapport, sur l'air de la Paimpolaise.
Absolument.
Et que j'ai mis un soin à reprendre la musique de la Paimpolaise pour entonner ce couplet. En vérité, il y en avait 12. La maison de la rue des Nobles, elle existe toujours ?
Elle existe toujours, oui. Et elle est habitée.
C'est intriguant de s'arrêter devant une maison et de se dire que là, il y a eu 2 empoisonnements.
Oui, il y a eu des tas d'anecdotes, notamment il y avait un paysan voisin qui était à côté qui a dit « elle a failli empoisonner tous mes cochons », vous voyez. C'est, mais ça s'est fait après qu'on ait vu ces affiches apparaître et fleurir lorsqu'elle s'est fait arrêter.
Alors vous qui avez lu le dossier Jean-Claude Hullian pour votre livre, est-ce que selon vous elle était folle ?
Je ne pense pas. Je pense qu'elle était atteinte de maladie parce qu'en fait, outre l'hystérie, elle était insensible. C'était une personne, elle s'était brûlée plusieurs fois, elle n'était pas du tout sensible. Et il y a dans sa vie, quand elle était jeune aussi, des éléments comme elle avait crevé les yeux de 2 petits serins dans la boucherie familiale à Casseneuil. Et donc, elle avait une insensibilité qui n'est pas de la folie, je ne pense pas. C'est aura, mais c'est plutôt... Ça rejoint son envie de lucre, puisque dans sa pension, elle avait aussi volé quelques jeunes, elle avait 10 ans, quelques tableaux qui étaient dans la pension où elle était élevée. Je ne pense pas, elle n'était pas une aliénée, c'était une malade.
Mais enfin, pour être capable quand même de tuer son mari, son frère et sa grand-mère, on perçoit quand même une femme bien cintrée et sans doute une psychopathe. C'est-à-dire quelqu'un qui place au fond ses intérêts avant l'affect qu'elle peut avoir pour ces gens qui lui sont si proches. Son frère est un type adorable.
Oui. Et en plus, son frère a été étudiant avec son mari. Ils étaient tous les deux étudiants à Bordeaux. Un était en pharmacie, c'est-à-dire le frère à Rachel, et son mari, Gaston, était étudiant en droit. Ils s'étaient connus dans les fêtes des statues studentines dans les années 1875 à peu près. Il n'y a pas d'explication logique à ce qu'elle a fait. C'est, d'une part, c'est amoral d'une part, et d'autre part, on se gratte la tête pour savoir qu'est-ce qui lui est passé à la tête. Parce qu'en fait... Oui. Tout ce qui est la mécanique de l'opération, c'est qu'elle sentait qu'elle n'avait pas assez d'argent pour paraître par rapport à toutes ses amies. À l'époque, Casseneuil était un bourg commerçant, comme Saint-Clair, mais Saint-Clair, il y avait une haute bourgeoisie qui avait de l'argent, qui avait des terres, et lui, son mari, il était bien sûr un notable, il était juge de paix, mais un juge de paix notable n'avait que de petites rentes, ce qui fait qu'elle voulait être à l'auteur de ses amis, mais elle ne pouvait pas y arriver, donc elle a cherché de l'argent là où elle pouvait en trouver, notamment l'affaire des assurances de vie, c'était en 1900 et quelques, elle avait eu cette idée parce que son mari était très ami avec un conseiller général du Lot-et-Garonne, d'ailleurs, et ce conseiller du canton de Cancon plaçait des assurances vie. Elle lui avait posé des questions, il lui avait donné des réponses, et c'est comme ça qu'elle a pensé à sa grand-mère tout d'abord, et à son frère ensuite.
Mais le mari, elle n'a aucun intérêt en vérité à le tuer, parce qu'elle n'hérite de rien de sa part.
Non. Le mari, alors, il y a eu dans la presse des histoires qui ne... Je suis sûr que ce n'était pas vrai, mais on a mis en épingle des opérations. Elle aurait eu des amis, un ami... j'ai eu des documents qui prouvent que c'est faux. Il avait quand même 15 ans de plus qu'elle. Hein. Gaston avait 15 ans de plus qu'elle. Et elle était une... soi-disant, d'après ce que nous avons... C'était une belle femme, et elle était admirée par certains, mais la presse nationale a écrit des articles. Moi, je pense que non, pas du tout. C'était plutôt une atmosphère à la Chabrol du début du siècle, dans ces familles bourgeoises. Ceux qui en avaient un peu plus que d'autres, et ceux qui en avaient un peu moins, essayaient de se hisser à ce niveau-là. Voilà.
C'est pour ça que Céline Le Braz a choisi des musiques très chabroliennes pour illustrer cette histoire.
Je la félicite parce que vraiment, ça correspond exactement un petit peu à ce que, lorsque j'ai écrit ça, l'atmosphère est parfaitement rendue, surtout ce début du siècle. Et il y a le petit ton d'humour qui est un ton qui rappelle que la Gascogne, malgré les morts, aime bien quelques bonnes blagues.
Voilà. Alors, il y a un truc qui est incroyable, c'est la manière dont on se fournit de l'arsenic à l'époque. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller à la pharmacie, dire qu'on a des rats à la maison. C'est, on a retrouvé ça dans plusieurs histoires de la même époque.
Oui.
Et c'est très simple.
Non. En fait, l'arsenic, ou l'acide arsenieux, plus exactement, pour tuer les rats, n'était délivré par les pharmaciens que par une ordonnance de vétérinaire.
Oui.
Alors donc, il y a aussi un vétérinaire qui fait l'ordonnance. L'ordonnance est déposée chez le pharmacien qui délivre l'acide arsénieux à usage de mort aux rats. Voilà exactement le schéma.
Donc elle est passée par un vétérinaire.
Oui, le vétérinaire, oui. Il y avait le vétérinaire de Saint-Clar, Salès, il s'appelait, j'ai le nom, qui à un moment a dit, je ne peux plus en donner, elle va empoisonner tout le pays.
Oui.
Et il y a eu aussi dans cette affaire, lorsqu'elle était à Casseneuil, elle envoyait sa mère chercher de l'arsenic chez un pharmacien de Casseneuil, parce que celui de Saint-Clar, comme elle était à Casseneuil, a refusé de lui en fournir, et c'est sa mère qui est allée voir un pharmacien à Casseneuil, et comme par hasard, le Casseneuil n'était pas parent, il s'appelait Dupont, comme le père de Rachel. Voilà,
d'accord.
Ces petites histoires dans les histoires.
Merci beaucoup, Jean-Claude Hullion, d'avoir écrit cette histoire, parce que sans des gens comme vous, je ne pourrais jamais raconter des histoires de cette époque. Je rappelle le titre de votre livre, Rachel, la grande empoisonneuse, aux éditions Arfil Volis.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.